France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
En politique, le mot trahison est toujours présent. De Jules César poignardé à Sébastien Lecornu qui ne tient pas sa parole sur l'usage du 49-3. Le mot trahison traverse les époques et les situations. On l'emploie pour des scènes spectaculaires comme pour des ruptures plus ordinaires. Dans la vie privée, le même mot sert ainsi à désigner des scénarios très différents. Une infidélité, un secret répété, un message laissé sans réponse ou encore une promesse que l'on pensait solide et qui ne tient plus. Alors, qu'est-ce qui fait que l'on se sent trahi très concrètement? Pourquoi certaines ruptures de confiance marquent-elles pendant des années, même quand elles paraissent petites vues de l'extérieur? Et peut-on vraiment se relever d'une trahison? Une invitée ce soir pour nous en dire plus, Fanny Lalo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignante-chercheuse en psychologie sociale à l'Université de Bâle, spécialiste des questions de morale, d'influence et de comportement social. Et vous venez de faire paraître l'ouvrage intitulé « Trahir et être trahi ». C'est aux éditions des Léonides. Merci d'être au micro de France Culture.
Il y a quelqu'un avec qui j'aurais aimé partager ce moment, même si elle ne regarde peut-être pas. Il y a 6 mois, j'ai rencontré l'amour de ma vie, la personne la plus belle et la plus merveilleuse au monde. Et il y a 3 mois, j'ai commis la plus grosse erreur de ma vie en la trompant. Et je lui ai avoué il y a une semaine. Ces dernières semaines ont peut-être été les plus difficiles de ma vie. J'avais une médaille d'or dans la vie. Je suis sûre que beaucoup de gens me regardent différemment maintenant, mais je n'ai Dieu que pour elle.
Ce sera peut-être le moment le plus gênant de ces Jeux Olympiques d'hiver. Après sa victoire, le biathlète norvégien Sturla Holm Lagrette s'est excusé d'avoir trompé sa femme qui est partie depuis. Fanny Lalo, qu'est-ce que vous avez entendu justement du point de vue de l'analyse de la trahison dans ce discours tenu publiquement ?
Il y a plein d'éléments qui sont assez intéressants. D'une part, en fait, ce dont il parle, c'est un des cas de trahison qu'on a le plus souvent, en tout cas qui vient le plus vite à l'esprit quand on pense trahison dans la vie de tous les jours, c'est l'infidélité dans le couple. Ce qui est intéressant dans ce cas, c'est qu'en fait, c'est lui le perpétrateur, c'est lui qui a trahi et qui maintenant, en fait, de façon tout à fait publique, dans cette interview qui, à la base, n'avait rien à voir avec sa vie privée, était liée à son statut d'athlète, fait, en fait, ses excuses de façon complètement publique et donc annonce, en fait, au monde entier qu'il a trompé son ex-compagne.
Qu'est-ce qui vous intéresse en tant que chercheuse? Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce domaine de la trahison? C'est le moment où la confiance se retourne et comment est-ce que vous l'abordez du point de vue de la psychologie sociale?
Dans le cas présent, le cas de cet athlète, ce qui est drôle, c'est que, en fait, ce qu'il fait correspond à ce qu'on va conseiller aux gens de faire quand il y a eu trahison, c'est-à-dire de le dire, de s'excuser, d'essayer à renouer le dialogue. Par contre, en général, ce que les gens font, c'est qu'ils ont cette discussion en tête à tête, pas devant les télévisions du monde entier. En fait, ce qu'il fait, ça revient à vraiment, mettre sur la scène globale internationale extrêmement publique quelque chose qui devait relever du privé, et il donne pas vraiment le choix à son ex-compagne sur la question. Qu'elle le veuille ou non, maintenant la terre entière sait qu'elle a été trahie en fait.
Mais au-delà de ce cas particulier, en tant que chercheuse, pourquoi se saisir de cet objet, la trahison? Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans ce domaine?
Ce que je trouve fascinant, c'est qu'en tant qu'humain, on a des vies ultra sociales, on est constamment en rapport avec les autres et on a besoin de ces rapports aux autres. Aucune personne ne peut fonctionner en isolation. Donc on est extrêmement, extrêmement social. Et à côté de ça, on est quand même capable, alors qu'on a besoin des autres et qu'on voudrait leur faire confiance, on est capable de leur faire les pires vacheries. Et c'est en fait ce paradoxe entre ce qu'on peut faire et ce qu'on voudrait avoir comme vie qui m'a vraiment fascinée comme objet d'étude.
Je voudrais qu'on revienne, Fanny Lalo, sur l'étymologie même du terme de trahison, car on a souvent le sentiment que la trahison concerne d'abord et avant tout des relations interpersonnelles. On peut se trahir entre individus. L'étymologie nous indique tout autre chose.
Oui, ça vient effectivement du latin tradere, qui veut dire donc remettre. Et dans ce premier sens, les premières utilisations du mot
remettre et transmettre.
Remettre et transmettre, oui, effectivement. Et dans cette étymologie-là, à la base, on parlait vraiment de trahison pour parler des relations à l'État, à la nation. Un individu pouvait trahir sa nation quand, par exemple, il se retournait vers l'ennemi, trahissait des secrets d'État, etc. Et c'est plus tard, en fait, qu'on est revenu à utiliser ce terme pour parler aussi de relations interpersonnelles.
Cette notion de trahison, on en a parlé en introduction, comment est-elle mobilisée dans le champ politique? Pourquoi est-ce une thématique omniprésente que l'on retrouve d'ailleurs à toutes les échelles de gouvernement?
Fondamentalement, on parle de trahison à partir du moment où il y avait eu confiance et que cette confiance a été rompue. Et en fait, du coup, c'est la question de confiance, je dirais, qui est fondamentale à la base dans les relations politiques, toute l'idée du politique, dans nos structures démocratiques. Il y a l'idée d'une double confiance. L'État doit quand même faire confiance en ses citoyens, leur donner certains droits, etc., certaines responsabilités. Et les citoyens font confiance à l'État en estimant que nos politiciens élus, la plupart du temps, sont censés quand même représenter nos intérêts, être compétents, etc. Et il a l'air de s'avérer que nos politiciens ne correspondent pas toujours aux attentes qu'on a, d'où l'idée de rupture de confiance et donc de trahison.
Alors quand on pense à la trahison en politique, l'image d'Épinal qui revient presque comme un réflexe, c'est la façon dont Jules César a été assassiné, notamment par Brutus. Je voudrais vous faire entendre une archive de 1956, un extrait de la fiction « La mort de Jules César » réalisé par Albert Riera.
Si comme vous, j'étais capable de prier pour émouvoir, je pourrais comme vous être ému par des prières. Mais je suis César. Et je ne suis pas de ceux que les prières fléchissent.
Oh, César.
Arrière.
Grand César.
Inutile. Vous n'avez donc pas vu que Brutus lui-même m'a supplié en vain?
Alors, que ce poignard parle pour moi. Mais, mars, César.
Tu as déjà trop vécu.
Allez, pardonner à mon frère, je ne te pardonnerai pas non plus.
Meurs, César, pour que vive la République.
Quoi? Toi aussi, Brutus? Eh bien, meurs, César.
Qu'est-ce qui fait le plus mal à Jules César, Fanny Lalot? C'est le coup de poignard lui-même ou ceux qui le portent?
C'est une grande question et c'est effectivement ce dont on traite dans la préface du livre. Probablement que le fait que ce soit Brutus parmi d'autres qui ait porté le couteau va faire plus mal. Enfin, après, on parle quand même de la mort de César, donc il faudrait mettre des pincettes là-dessus. Mais dans l'idée, ce qui fait mal dans la trahison, c'est pas seulement l'acte lui-même, le tort qui peut être porté, c'est l'aspect de la rupture de la confiance, du fait que c'est un proche, quelqu'un en qui on avait confiance, qui fait mal.
Je voudrais qu'on parle d'une expérience que vous avez menée, d'une série d'expériences que vous avez menées lorsque vous avez interrogé des personnes en leur demandant de raconter la première trahison qui leur venait à l'esprit. Qu'est-ce que vous avez observé? Qu'avez-vous fait de ces résultats?
Effectivement, un mot sur la méthode, ce qu'on demandait aux personnes, c'est de rapporter un épisode, pas le plus récent, pas le plus grave, le premier qui venait à l'esprit, dans l'idée que ce qui nous vient à l'esprit, c'est ce qui nous a marqué, ce qui va être important pour notre trame de vie. Et on espérait comme ça pouvoir voir en fait une variété de cas. Et effectivement, c'est ce qu'on a constaté. Les cas que les personnes nous rapportent sont très variés. On en est arrivé à 9 catégories différentes en fait de trahison. Et ça touche vraiment à tous les types de relations personnelles qu'on peut avoir. Le partenaire romantique, évidemment, mais aussi la famille, les amis et le monde du travail.
Ce que cela montre aussi, c'est que la trahison est un concept mouvant qui évolue selon les classes sociales, qui évolue selon le genre, qui évolue également selon les périodes et la manière dont on en parle.
Alors oui et non, c'est-à-dire que on peut avoir certaines différences. Par exemple, en termes de genre, on remarque quelques différences entre les hommes et les femmes. Les femmes, par exemple, rapportent plus de trahison par leurs amies féminines que les hommes, mais surtout on a beaucoup de similarités. En fait, on a pu comparer nos résultats à d'autres qui avaient été faits il y a 30-40 ans de cela, aux États-Unis spécifiquement, et ce qu'on a retrouvé, c'est surtout des similarités. C'est le même type de catégorie, en tout cas de trahison, qu'on retrouve, même si bien évidemment, il va y avoir des différences. On peut penser à comment les réseaux sociaux, par exemple, influencent la façon dont on peut se trahir, la façon dont on va trouver la personne avec qui être infidèle, mais dans l'essence même de ce que les gens se font les uns aux autres, c'est surtout des similarités au fil du temps et à travers les différents sexes, les différents âges, etc.
L'une des grandes continuités notamment que vous mettez en lumière, c'est que lorsque l'on est trahi, l'une des premières choses que l'on tente de faire, c'est de comprendre pourquoi. C'est quasiment le réflexe premier.
Ouais. Chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, alors que ce soit une trahison, que ce soit autre chose, un événement heureux, malheureux dans l'existence, on a cette tendance à essayer de comprendre pourquoi. Le monde est grand, incertain, affreux. On essaie d'en savoir plus sur pourquoi les choses arrivent, de façon à pouvoir prédire dans le futur si elles risquent de se passer à nouveau ou pas.
Vous dites qu'on mobilise les théories de l'attribution causale. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
Alors l'attribution causale, l'idée c'est d'aller chercher des causes, comme le dit le nom, à ce qui s'est passé. Et ces causes, on peut les trouver chez nous-mêmes, chez une autre personne, ou bien dans les circonstances, de façon large. On peut aussi distinguer les causes qui sont stables. Par exemple, si la façon dont je me suis comportée dépend de ma personnalité, il y a des chances que ce soit stable et que ça se reproduise dans le futur. Ça s'oppose à des causes instables. Si j'étais de mauvaise humeur et que ça m'a poussé à critiquer énormément mon conjoint, le pauvre, ça, il y a des chances que demain je me sente mieux et que donc ça ne se reproduise pas.
Qu'avez-vous observé ? Est-ce que, en gros, lorsqu'il y a trahison, c'est toujours la faute de la personne qui a trahi ? Est-ce que, dans le fond, on est rarement responsable de la trahison dont on a été victime ?
Il y a des biais assez systématiques dans la façon dont on cherche ces causes, biais qu'on connaît bien dans la recherche, qui ne sont pas uniquement applicables à la trahison, mais à tous les cas de figure, qui font que chacune des deux personnes, la personne trahie et la personne qui a trahi, vont avoir tendance de façon assez systématique à voir les choses de façon différente. Du point de vue de la personne qui a été trahie, en fait, il y a une tendance un peu trop élevée à aller chercher des causes chez l'autre. Ça s'appelle l'erreur fondamentale d'attribution. On a tendance à minimiser le rôle des circonstances et à vraiment chercher chez la personne la responsabilité pour les actions. Et à l'inverse, quand on se juge soi-même, alors là, on est beaucoup plus sympa, cool avec nos propres actions. Et là, on va beaucoup plus se trouver des circonstances atténuantes que quand on explique le comportement d'autrui.
On peut le comprendre. Fanny Lalot, je vous cite un extrait de « Trahir et être trahi » qui est apparu le 11 février aux éditions Les Léonides. Vous écrivez « En quoi alors le fait de trahir à dessein ou au contraire sans intention néfaste initiale influencera-t-il la perception qu'on a de la trahison ?» Fin de citation. En quoi cette question est-elle déterminante pour comprendre le fondement même d'une trahison ?
L'intentionnalité est vraiment clé. En fait, c'est-à-dire que vous pouvez imaginer la même action qui va avoir lieu pour des raisons extrêmement différentes. Je pense un bon exemple, c'est le fait de révéler un secret. On peut avoir une discussion, vous et moi, et en fait, sans faire exprès, je vous révèle une information qu'avait donnée un collègue parce que je pensais que vous étiez dans la confidence. C'est une trahison, j'aurais pas dû le faire, mais j'en avais aucune intention et même aucune notion au moment où je le fais. Je peux le faire par méchanceté pure, parce que j'ai envie de porter tort et du coup de révéler une information. Je peux le faire sans m'en rendre compte, parce que ça m'échappe dans le feu de l'action, de la discussion. Une information sort et après, oups, ben c'est trop tard. Mm-hmm. Donc derrière la même action, il peut vraiment y avoir énormément d'intentions différentes. Et en fait, quand on juge l'acte, on ne juge pas seulement l'acte, mais vraiment ce qu'il y avait derrière et les raisons de pourquoi ça s'est produit.
Je voudrais qu'on tente de comprendre aussi comment on se relève une fois que la trahison a été vécue, perçue et assimilée. Le premier choix qui est fait peut-être, c'est de se demander doit-on parler ou non, doit-on confronter ou non la personne qui nous a trahis.
Justement, à cause des éléments dont on parlait avant, le fait que cette première recherche de cause, recherche d'attribution tend à être biaisée et à être différente. En fait, c'est très important d'avoir cette confrontation, de pouvoir parler avec l'autre, juste pour pouvoir confronter ses points de vue. Et réaliser que souvent, la toute première version des faits qu'on va pouvoir présenter l'un et l'autre va être différente. Pouvoir comparer ces versions, c'est un premier pas sur le fait de se mettre d'accord, de se dire « Ok, c'était peut-être un peu les circonstances, tu as néanmoins une part de responsabilité qu'il faudrait que tu assumes. »
Qu'avez-vous observé dans vos études ? Quand est-ce que la confrontation paraît plus souvent ou quand est-ce qu'elle justement a tendance à être éludée, mise de côté selon les situations ?
On le fait plus souvent quand la relation est très importante pour la personne et quand les conséquences étaient graves. En fait, on comprend que la confrontation, c'est une discussion difficile. Ça va pas être drôle, on va peut-être en apprendre plus sur la personne, mais ça peut être pire en fait. On peut se rendre compte que notre partenaire finalement ne tient pas à nous tant que ça, et donc ça peut être assez dévastateur sur le moment. Et donc on s'engage en tant que personne trahie dans ce processus à partir du moment où on voit un intérêt, où c'est une relation qui compte pour nous et qu'on voit la possibilité d'essayer de la sauver.
Qu'est-ce qu'une bonne réparation pour la personne trahie, pour commencer Fanny Lalot ? Comment une personne qui a été trahie peut se relever dans le temps long.
Une première partie du processus passe vraiment par les communications. Donc c'est toute l'idée. Alors voilà, il y a eu cette confrontation dont on vient de parler. L'autre personne a pu nous donner des justifications, potentiellement des excuses. On peut comprendre qu'elle avait l'intention ou pas. Fondamentalement, elle voulait nous faire souffrir, elle s'en est pas rendue compte, etc. La deuxième partie, c'est aussi la possibilité pour elle de s'excuser. Quand on reçoit des excuses, c'est aussi beaucoup plus facile d'aller de l'avant, de pardonner et donc de se relever, parce que les excuses en fait nous remettent au cœur du problème. Ça reconnaît nos souffrances, ça lui donne une forme et ça nous permet d'aller de l'avant.
Aller de l'avant, ça veut dire nécessairement pardonner. Justement, comment se place la question du pardon, là aussi, du point de vue de la chercheuse en psychologie sociale que vous êtes, Fanny Lalo?
Alors, ce que montre la recherche en général, c'est que le pardon, c'est bien. Bien dans le sens, ça va
jusque là, on s'y attendait.
À vous. Alors, grande surprise, effectivement. Non, dans l'idée, les personnes qui peuvent pardonner, qui peuvent aller de l'avant, on voit que c'est des personnes qui sont aussi plus stables dans la vie, qui ont une meilleure confiance en elles-mêmes, qui ont moins d'émotions négatives, etc. Retenir, en soi, retenir la haine, les ruminations, etc., ça fait du mal, en fait. Donc, c'est difficile, en fait, de vraiment passer outre si on ne pardonne pas. Après, il y a quand même une nuance à mettre à ça, c'est qu'il y a des trahisons extrêmement graves, il y a des actes vraiment gravissimes qu'autrui a pu nous faire. Je ne veux pas dire qu'il faut toujours pardonner, c'est à chaque personne de décider si elle est capable de le faire ou pas. C'est là qu'une autre issue potentiellement à la trahison peut être simplement de couper les ponts, de mettre fin à cette relation, ne plus jamais voir la personne sans forcément lui pardonner.
Une question un peu plus étrange que vous posez, Fanny Lalo, c'est comment se relever lorsqu'on est la personne qui a trahi? Alors déjà, avant de répondre à la question, pourquoi même se la poser?
C'est pas toujours facile de réaliser qu'on a pu être le salaud dans l'histoire, si vous me passez le vocable. On a tous l'impression, pratiquement tous, qu'on est quelqu'un de bien. On est quelqu'un de sympa, qui tient aux autres, on est un bon mari, une bonne femme, un bon parent, un bon enfant, tout ce que vous voulez. De devoir intégrer à l'image de soi que ben non, pas toujours, que parfois on peut aussi faire des choses aux autres qui les ont fait souffrir, parfois vraiment par pur hasard sans s'en rendre compte, mais parfois parce qu'on était sous le coup d'une émotion forte, qu'on était jaloux, qu'on était en colère et qu'on a été capable de faire ça, il va falloir l'intégrer à son image de soi et c'est pas forcément facile.
Donc le fait même de trahir, ça peut être aussi un bouleversement pour soi-même?
Tout à fait.
Alors comment s'en relève-t-on?
On s'en relève dans le processus avec l'autre. C'est-à-dire que si on peut avoir ce processus à deux d'explication, de rationalisation de ce qui s'est passé, de reconnaître sa part de responsabilité, mais aussi les circonstances atténuantes, qu'on arrive à se mettre d'accord avec l'autre et potentiellement qu'il nous pardonne, ça va aider à aller de l'avant. Et ensuite, il faut quand même une vision de soi-même qui soit assez bienveillante. Il faut se dire que même si on veut être quelqu'un de bien et qu'on peut toujours progresser et se servir de ce qui s'est passé comme leçon pour être une meilleure personne demain, il faut quand même garder une certaine compassion avec soi-même en reconnaissant qu'on fait des choses des fois qui sont un peu en dehors, peut-être pas en dehors de notre contrôle, mais qu'on ne souhaitait pas faire et que c'est comme ça et qu'il faut aller de l'avant.
Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie également que trahir, c'est être capable de gérer dans le temps une forme de culpabilité, faire avec sa culpabilité?
C'est ça, je pense que ça résume bien.
Du point de vue, cette fois-ci, de la réputation, trahir, c'est aussi atteindre à sa réputation, puisqu'on l'a bien vu, là, par exemple, lorsqu'il s'agissait de cet athlète olympique, il a dû expliquer à d'autres qu'il avait eu une affaire et qu'il avait trompé sa femme. C'est mettre en danger sa réputation.
Alors, ce qui est amusant dans cet exemple-là, c'est que souvent, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le risque dans notre réputation, c'est si la personne qu'on a trahi va en parler plus loin à des tiers, c'est là que notre réputation est entachée. Et en fait, vous avez des travaux en ce qu'on appelle la psychologie de l'évolution, par exemple, qui postulent que ces mécanismes de réputation, et notamment tout ce qui est autour des ragots, des commérages, ça existe pour qu'on se tienne à carreau. On a beaucoup plus de raison, en fait, d'être gentils les uns envers les autres et de se respecter dans un groupe si notre réputation est en jeu. Parce que du coup, faire du mal ou manipuler, user d'une personne va montrer à l'ensemble du groupe qu'on n'est pas une personne de confiance et donc c'est l'ensemble du groupe qui pourrait nous punir. Donc, normalement, c'est conçu comme ça. Le risque, c'est que la personne qui a été trahie aille raconter plus loin ce qu'on lui a fait et que c'est ça qui entache notre réputation. Ce qui est rigolo avec notre fameux Norvégien, c'est qu'en fait, c'est l'inverse. C'est lui qui va, alors que c'est lui le traître, le perpétrateur, c'est lui qui va sur le devant de la scène pour aller rendre de façon publique, en fait, cette trahison.
Qu'est-ce que l'inverse de la trahison? C'est la fiabilité? C'est la loyauté?
Oui, dans l'idée, vu que la trahison, c'est une violation de la confiance, le contraire, ça va être la confiance.
Vous écrivez, or la fiabilité se compose d'au moins trois dimensions interconnectées, la compétence, la bienveillance et l'intégrité. Alors si on commence par la compétence, de quoi s'agit-il? Il y a des compétences à la fiabilité?
En fait, il faut comprendre là-dedans que la confiance est spécifique à des domaines. On peut faire très confiance à une personne pour certaines tâches et pas du tout pour l'autre. Quand je donne ça à mes étudiants, je leur dis toujours, si je vous propose de réparer votre voiture, ne me croyez pas. J'ai toutes les meilleures intentions du monde, mais je suis nulle en mécanique, votre voiture sera pire après qu'avant.
Donc on ne vous fera pas confiance là-dessus.
Il vaudrait mieux pas. Ça, c'est vraiment la compétence. Et l'idée, c'est que vous avez domaine par domaine cette idée de compétence, de voir ce qu'on peut ou non confier à une personne.
La bienveillance, alors, en quoi a-t-elle à voir avec la fiabilité ?
La bienveillance, c'est l'aspect de la relation dyadique et vraiment cette idée que l'autre, enfin la personne que je juge, va avoir mes intérêts à cœur. Que vraiment, elle compte pour moi, qu'elle veut me faire du bien et qu'elle ne va pas essayer de me nuire.
Et l'intégrité, enfin ?
L'intégrité, c'est une dimension plus générale qui va au-delà, justement, de cette relation qu'on a à deux, qui se base plus, en fait, sur le système de valeurs que va avoir la personne. C'est l'impression qu'on a que la personne a des valeurs morales et qu'elle s'y tient. Si la personne dit quelque chose, c'est quelque chose qu'elle va faire.
Sans nous révéler de grands ou de très très grands secrets, Fanny Lalo, est-ce que je peux vous demander également la dernière fois, ou en tout cas, le moment où vous avez été trahi qui vous revient spontanément à l'esprit ?
C'est difficile comme question.
Je précise que je vous ai demandé avant l'émission si je pouvais vous poser la question.
C'est vrai. Je crois que j'ai joué mon joker sur cette question.
Vous avez évidemment bien raison. Je voulais également vous interroger sur le cœur de la thèse que vous aviez menée. Vous avez travaillé sur une notion que l'on appelle en psychologie sociale le fossé, c'est-à-dire le hiatus qui existe entre les valeurs qu'on se fixe à soi-même, les principes qu'on édicte pour nous-mêmes et les actions que l'on mène. Alors qu'est-ce que vous avez justement montré, démontré dans cette thèse ?
Alors en rapide, parce que 6 ans de travaux, ça rend du temps à résumer.
Oui, mais j'ai vu que vous l'aviez fait en 180 secondes.
Je l'ai aussi fait en 180 secondes, la vidéo est trouvable, je pense, si vous la cherchez. Dans l'idée, on partait d'un paradoxe qui est que la plupart du temps, les gens essayent d'être constants dans leurs actions. On se voit comme une personne, par exemple, respectueuse de l'environnement, c'était ce que j'ai fait dans ma thèse, on va avoir des comportements respectueux de l'environnement un peu tous les jours. On a besoin pour avoir une définition de soi qui est claire et donc pour tirer une estime de soi qui est positive, d'avoir de la constance, de la cohérence dans ces actions qu'on fait au quotidien. Et à côté de ça, on voit que les gens sont aussi capables de grands écarts mentaux et de faire des choses complètement opposées d'un jour à l'autre. Et là, on parle de système de crédit, par exemple de crédits moraux, pour parler du fait que quand on fait une bonne action, ça nous donne des crédits positifs, crédits qu'on peut utiliser demain pour faire quelque chose de moins moral, tout en gardant en fait cette balance et donc l'impression qu'on est toujours une personne de bien.
Pourquoi dites-vous qu'il faut une définition de soi extrêmement claire ? À quoi ça sert même du point de vue de notre propre protection ?
Ça sert à savoir qui on est, et ça c'est un des besoins fondamentaux de l'humain. En fait, c'est la façon dont notre psyché est formée ou fonctionne. On a besoin de savoir qui on est, on a besoin d'une bonne définition de soi, et donc oui, ça contribue à ça. En fait.
Sur le fossé justement qui sépare les principes et l'action, vous aviez pris dans cette fameuse vidéo un exemple en particulier, celui de l'environnement. Est-ce que vous pourriez nous le raconter et nous l'expliciter ?
Alors, ce qui est intéressant avec l'environnement, c'est qu'on voit que c'est un domaine qui est devenu très moralisé. C'est-à-dire qu'on, clairement, autour de tout l'enjeu, en fait, climatique, environnemental, etc., de la situation de la planète, il y a clairement quelque chose, il y a des valeurs morales derrière. On voit qu'il y a quelque chose de bien qu'il faudrait faire. Et à l'inverse, les choix plutôt égoïstes qui vont aller à l'encontre de ça. Et ce qu'on essayait de voir, c'est pourquoi, comment en fait des personnes peuvent se dire, et c'est pas qu'elles mentent, on peut se sentir très soucieux de l'environnement, avoir l'impression que c'est important, et malgré tout au quotidien avoir des actions qui ne respectent pas forcément ce principe. Et c'était justement dans ce paradoxe là entre guillemets qu'on voulait voir comment on se justifie à soi-même d'avoir des actions qui peuvent contredire nos valeurs, mais garder quand même l'impression que oui, on est quelqu'un qui se soucie de l'environnement.
Si je tente justement d'unir, de rapprocher les deux sujets de l'émission, celui de la trahison et celui du hiatus entre les principes et les actions, est-ce que la notion de trahison, se trahir soi-même, c'est une chose également que vous avez étudiée, examinée ?
Non, parce qu'en fait, je pense que là, on a un souci de vocabulaire. C'est-à-dire que dans la langue, on parle de se trahir soi-même, voire même de trahir ses valeurs. Ça revient un peu à ce qu'on disait là sur le deuxième sujet. Mais ce n'est pas une trahison dans le sens où on entend trahison dans le reste des sciences sociales. Puisque derrière trahison, il y a l'idée de... il y avait ces attentes positives envers une autre personne. On faisait confiance, on s'est rendu vulnérable. Et cette confiance a été rompue, la vulnérabilité a été abusée. Je pense qu'on ne peut pas parler de ça en intra, en fait. Donc, en fait, c'est la langue qui porte un peu à confusion. On va dire « j'ai trahi mes valeurs », mais en fait, c'est un phénomène qui est différent.
Et sur le fossé qui existe entre principe et action, comment le réduire? Et faut-il même chercher fondamentalement, absolument, à le réduire?
Alors, la bonne nouvelle, c'est que notre cerveau fait ça pour nous et trouve plein de bonnes raisons pour rationaliser les actions, généralement les actions négatives ou non morales, etc., qu'on a pu commettre, en compartimentalisant bien tout ça, en faisant des exceptions pour garder en fait toujours l'idée qu'on est quelqu'un de bien.
Donc, on n'a pas besoin de faire d'efforts.
On n'a pas besoin de faire d'efforts pour garantir une bonne image de soi. Après, pour réussir à atteindre les objectifs, peut-être à plus grande échelle, si, c'est peut-être bien de voir qu'on a des contradictions à essayer de les résoudre.
Merci beaucoup Fanny Lalot. Je rappelle que vous êtes enseignante chercheuse en psychologie sociale à l'Université de Bâle, spécialiste des questions de morale, d'influence et de comportement social. Vous avez publié le 11 février dernier aux éditions Les Léonides, l'ouvrage intitulé « Trahir et être trahi ». Merci d'être venu au micro de France Culture. Merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission, Rodi Eken, Audrey Carme, Bertie Bourdon, à la réalisation Léa Racine.